Les temps modernes.
Bonjour Nicolas Isquier.
Bonjour Simon.
On parle ce matin des objets intelligents.
Je sais pas vous Simon, mais moi j'ai toujours rêvé de pouvoir parler à un morceau de gruyère.
Ah oui, j'en rêve aussi.
De lui demander « Salut, comment tu vas? D'où tu viens ?» Tu serais pas un petit peu trop gras pour moi? Es-tu un véritable AOC?
Et pourquoi tous ces trous
métaphysiques exactement? Pourquoi es-tu si troué? Ben, ces genres de questions, désormais, on va pouvoir, grâce à une technologie, les faire, car cette technologie nous permet justement de scanner avec nos téléphones portables ou avec une petite puce, eh bien, différents produits, comme mon morceau de gruyère. Et hop, d'un coup, s'affiche en temps réel toutes les informations de ce fameux morceau de gruyère. Par exemple, je suis très gras, je suis pas trop gras, je viens de là. Et vous pouvez ainsi tout voir. On appelle ça l'Internet des objets, une technologie qui permet d'échanger des informations avec les objets les plus quotidiens via le web. Séverine Ambrousse nous explique comment ça marche.
Tout cela grâce à de minuscules puces dites RFID ou encore une nouvelle génération de codes-barres. Laurent Cibot est responsable des instituts de recherche sur l'informatique au centre Technoarc de Sierre.
Un aspirateur dans une grande surface, vous voulez changer le filtre, vous ne savez pas comment ça fonctionne, il y a un petit code barre 2D sur cet aspirateur, vous prenez votre téléphone, vous scannez et en quelques dizaines de secondes, vous avez la vidéo qui vous explique comment on fait, comment on change de façon extrêmement simple.
Et l'Internet des objets intéresse de plus en plus d'entreprises en Suisse, dans la grande distribution, mais aussi dans le domaine médical ou celui des transports. Les CFF, par exemple, prévoient notamment d'utiliser la technologie RFID pour les abonnements d'ici quelques années.
On aura simplement une petite carte qui permettront de reconnaître avec une grande fiabilité quelle est la personne pour pouvoir avoir des abonnements de transport pour utiliser de manière beaucoup plus simple des trains, des bus, etc.
Les entreprises, plutôt que de ne faire que vendre des produits, vont de plus en plus proposer des services avec ces produits et ce sera pour le consommateur notamment la possibilité d'être mieux informé.
On va pouvoir scanner des denrées alimentaires et avoir la chaîne de traçabilité, de savoir d'où ça vient, comment ça a été fabriqué et de pouvoir garantir des labels bio notamment. Ça, c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup de demandes actuellement.
Mais se pose aussi la question de la protection des données concernant l'utilisateur. Et là, selon Laurent Cibot, le cadre législatif suisse permet une protection suffisante. Laurent Cibot qui insiste aussi sur la nécessité de laisser le choix aux consommateurs de donner ou pas accès à ces informations personnelles.
Pour en parler, on a le plaisir d'accueillir ce matin Solange Garnaotti. Elie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à HEC Lausanne, experte en cybercriminalité, auteur de plusieurs ouvrages. Citons Technocivilisation pour une philosophie du numérique que vous avez coécrit avec René Berger. Bon, vous venez d'entendre ce que l'on vient de dire, comme moi, l'explication de Séverine Ambrousse. Alors tout le monde s'y met, on a entendu les CFF, l'aspirateur, le morceau de gruyère. C'est un modèle économique, cette forme de RFID, de puce, d'Internet des objets.
Alors ce qu'il faut comprendre effectivement, c'est que les ordinateurs sont de plus en plus petits, ils sont des nanotechnologies, donc ça peut être des objets embarqués dans d'autres objets, ils vont être invisibles, ils peuvent contenir des processeurs qui sont capables de traiter de la donnée, et puis aussi de sauvegarder de la donnée et de la transmettre. Donc à partir de ce modèle-là, tous les services peuvent être imaginés. Et comme on l'a vu dans l'interview, des services au plus proche du consommateur pour normalement satisfaire un besoin de convivialité peut-être, mais de proximité et d'aide avec une, ce qu'on appelle aussi de la réalité augmentée. On rajoute de l'information aux objets pour peut-être mieux les utiliser.
Et on l'a entendu, les CFF vont aussi miser sur cette technologie d'ici quelques années. Derrière tout ça, c'est la personnification de l'œuvre qui est en question.
Ce qu'on peut comprendre effectivement, c'est que dans ces puces, on peut donner des informations relative aux personnes, à l'identité, qui va permettre de les authentifier et donc y embarquer de l'argent et avoir cet argent virtuel embarqué dans des puces qui permettrait effectivement de voyager et de payer son ticket en temps réel.
Et c'est quoi la prochaine étape là? Parce qu'on parle de quelque chose qui existe déjà. Qu'est-ce qu'on va voir dans quelques années?
Alors, ce qui existe déjà, c'est le dossier médical informatisé dans une puce, dans une nanopuce, une RFID qui peut être greffée sous la peau. C'est ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis. C'est une puce homologuée par le département de la santé américain depuis 2004. C'est aussi des puces qu'on intègre dans les personnes pour la recherche des personnes disparues. Et dans des pays où à tort faux d'enlèvement, ces personnes les plus riches se font greffer ce type de puce.
Donc c'est volontaire aux États-Unis, hein, cette puce greffée sous la peau, on l'imagine.
Oui, c'est pour une aide à la médecine, notamment pour des personnes atteintes d'Alzheimer. Alors volontaire, je ne sais pas.
Oui, si c'est Alzheimer, rarement graffer une puce sans le vouloir, non? Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, ça, vous sortez le samedi soir et puis pas pour vous montrer une puce.
Ça tout les cas, samedi soir, il y a des boîtes de nuit, notamment à Barcelone, qui intègrent déjà ce genre de technologie. Hein,
pour les bons clients.
Oui, pour les clients qui ont envie d'avoir les mains libres et de ne pas avoir de
porte-monnaie. Dans le cas d'Alzheimer, on peut imaginer que justement que ce ne soit pas volontaire.
Mais absolument.
On gagne quoi là-dedans finalement en tant que client et qu'est-ce que cette personnification de l'offre a de bon?
Alors, je ne sais pas ce qu'on y gagne, mais en tous les cas, on y gagne peut-être en dépendance. Alors, je ne sais pas si c'est un gain, on dépend de plus en plus des technologies, on va dépendre de plus en plus de ces technologies. Et on aura un rapport à la technologie qui va changer. D'ailleurs, là, on parle d'Internet des objets, c'est tous les objets qui sont capables de communiquer via l'Internet, justement, par ces puces. On va peut-être parler des personnes, des objets. Enfin, va peut-être devenir aussi, si on fait l'analogie inverse, des objets, et on risque d'être des zombies de cette technologie. Mais ce n'est pas sûr non plus. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est les rupture de paradigme sur lequel nous sommes en train de vivre par ces technologies. Et c'est pas tant les technologies de l'information, c'est les nanotechnologies qui vont nous faire changer d'environnement. Et je crois qu'il faut qu'on invente quelque chose de nouveau. Faut pas qu'on répète. C'est un pouvoir tellement fort de communication, d'information, de contrôle à distance et aussi de surveillance. Il faut pas le nier, hein, puisque cette puce, elle pourrait être suivie à distance. On va de plus en plus aussi, on voit dans le métro à Paris des cartes Navigo qui sont des cartes de passage au tourniquet du métro pour aller plus vite, mais c'est des cartes qui permettent la géolocalisation des personnes et la traçabilité des personnes.
Et donc derrière tout ça, est-ce qu'on se prépare vraiment, est-ce qu'il y a, vous parlez de rupture de paradigme, mais est-ce qu'on en est conscient et surtout est-ce qu'on est en train de l'anticiper cette rupture de paradigme ou on est en train d'essayer tâtonner Navigo à gauche, les boîtes de nuit à Barcelone à droite?
On en est vraiment conscient, et moi j'ai l'impression qu'on subit plus ces évolutions technologiques sans les penser comme d'une façon philosophique voire poétique. Il faut réinventer quelque chose pour s'accaparer nous humains, ces technologies, le pouvoir qu'elles nous donnent et qu'elles donnent à certains et pas à tous.
Mais comment, alors où va votre poésie, Solange Garnaoutielli?
Oui, vous avez deux minutes pour être une poète.
Ouais, ça va être un petit peu dur à cette heure-ci du matin.
Un petit haïku comme ça.
Non, mais je crois qu'il faut qu'on arrive à penser autrement la vie et les relations aux objets. Là, ce qui me choque un peu dans le développement technologique, c'est une technolisation de la société.
Sous l'aspect bling-bling.
Oui, un peu. Et on a l'impression de la subir. Et ceux qui fait émerger cette technologie, c'est le marketing. Et c'est pas la volonté politique et c'est pas les humains. Donc bien sûr, à chaque fois, on aura un service à valeur ajoutée qui peut être plaisant, qui va faciliter la vie, mais qui va faire perdre en liberté sur certains autres côtés. Et je crois qu'il faut repenser ces relations-là et en avoir conscience.
Bah, vous êtes là pour ça, hein, c'est ça. C'est votre rôle dans la société.
Oui, peut-être, en tous les cas, en tant qu'universitaire, de conscientiser cette technologisation de la société.
C'est ce que vous ferez d'ailleurs le 8 décembre.
Absolument, puisque nous avons une conférence sur géolocalisation. Bougez, vous êtes localisé.
Justement, le piratage, une puce sous la peau, on sera tous piratés?
Le potentiel existe en tous les cas, oui. Même si elle est protégée par des techniques cryptographiques ou autres, on sait détourner les technologies. Il faut plus ou moins de temps ou de compétences et d'efforts, mais on sait le faire.
C'est peut-être ça le plus grave, hein, plus que la géolocalisation stricto sensu, c'est d'être piraté, donc de ne plus avoir aucun anonymat, je veux dire.
Je crois les deux, parce que avec qui on est en contact, avec qui on bouge, où on va, on a déjà une cartographie de la personne, de ses goûts, de ses goûts politiques, de tout, quoi. On sait tout dériver à partir de certaines informations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est pas l'information elle-même qui pose problème, c'est les corrélations qu'on peut en faire de ces informations.
On parlait du samedi soir, quelqu'un dans la rue me plaît, je vais pouvoir avoir des informations très rapidement. Si, imaginons, d'ici quelques années, on aura des informations.
Son profil.
J'aurais même plus besoin d'aller sur un site internet pour avoir ou éventuellement chercher des informations sur ces personnes, elles apparaîtront devant moi.
Absolument, d'une façon complètement automatique. Et c'est l'automatisation qui va pas.
Mais on n'aura peut-être plus besoin d'écran, plus besoin d'Internet. Tout ça va disparaître, cet intermédiaire-là, physiquement, va disparaître.
L'Internet, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un moyen de communication. Et c'est l'air, hein, parce qu'on communique sans fil, c'est de l'air. Ouais. Donc c'est déjà immatériel. Non, ce qui ne va pas disparaître, c'est les centres, les serveurs, les fermes de serveurs. C'est une masse de données qu'il faut traiter quelque part et qui sont centralisées. Et je crois qu'on va vers un anti-Internet où toutes les données qui vont être distribuées sur les personnes, sur les objets, vont être centralisées sur certains centres.
Un anti-Internet, dites-vous?
Oui, ouais. C'est l'anti-réseau, puisque tout est concentré. On voit bien sur Facebook, tout est concentré sur Facebook, les serveurs de Facebook, tout est concentré sur les serveurs de Google. C'est 25 millions de serveurs sur 25 data centers.
Et c'est l'entonnoir, dans ce sens-là, c'est l'anti-Internet, effectivement. Merci infiniment, Solange Garnaoutielli. Je rappelle que vous êtes experte en cybercriminalité, auteur de pas mal d'ouvrages, dont Techno-civilisation pour une philosophie du numérique, coécrit avec René Berger. Et vous donnez donc cette conférence au Rolex Learning Center, c'est à l'EPFL de Lausanne, le 8 décembre.
Après-midi, oui. Merci
beaucoup. Bonne journée. Les temps modernes sont sur les réseaux sociaux et aussi sur l'Internet.
Intelligent, toujours très intelligent.
Comme vous, Nicolas Esquiam. On vous retrouve demain.
À demain.